Aujourd'hui, on continue encore dans l'étude sur l'Église, puis tout ce qu'on a à apprendre sur l'Église. Là, on regarde les différents aspects que l'Église, à quoi qu'elle sert. Dieu, quand il a dit « Je bâtirai mon Église », il y avait vraiment un but, là. Il y a quelque chose à faire dans l'Église, là. Il veut que l'Église serve à quelque chose. Puis c'est toutes des quelque chose important. Dieu n'avait pas fait l'Église juste parce qu'il voulait qu'on regarde comment est-ce qu'on était habillé cette semaine-là. Là. Il a fait l'Église pour des buts précis, pour notre croissance, pour qu'on grandisse, pas juste dans la taille, là. On grandisse dans la connaissance des choses de Dieu. Vous savez, puis ça, c'est rien de nouveau, là. Que le diable, lui, il est spécialiste de venir mettre des doutes dans la tête du monde. C'est le but. Pas qu'il y a but. C'est pas le but qui a été créé pour cela, mais c'est le but que la parole, elle doit être expliquée, enseignée, ancrée dans notre pensée pour être capable de comprendre vraiment solidement, avec certitude, comme qu'on a lu dans le verset au début de la réunion, qu'on ait une confiance que qu'est-ce qui est écrit, c'est vrai. Puis Dieu sait sa parole qu'il nous a transmise, qui est vivante. C'est une parole qui agit, qui peut sauver nos âmes, mais aussi qu'elle nous fortifie pour nous rendre solides. Puis c'est important qu'on soit toujours nourri de cela, parce que c'est ça qui nous maintient d'une foi qui est ferme. Souvent, quand on se met à douter, c'est parce qu'on a négligé. Les doutes viennent, puis on tombe dans ces pensées-là, puis on est presque en train de tu sais, on n'a pas de fermeté, puis on est presque en train d'embarquer dans tous ces doutes-là, puis croyances-là. Dieu, ce qu'il nous a dit, c'est du solide. Aujourd'hui, le thème qu'on va regarder, c'est l'Église, c'est une école de formation de disciples. Ça commence là. Jésus, quand il était avec ses 12 apôtres, il n'y avait que 12 au départ. Il les a choisis, là. Puis ces 12-là, c'est sûr, ça s'est multiplié avec le temps, mais ces 12-là, il s'en occupait pour les former. Il était avec pendant 3 ans de temps, il a enseigné les choses, il a vécu des choses avec ses disciples, il a manifesté sa gloire, ils ont vu des miracles. Là, les disciples, ils étaient un petit peu solides, mais ils n'étaient pas encore solides, parce que Jésus est mort, puis ils étaient tous découragés, ils étaient prêts à tout lâcher. Mais par après, quand ils l'ont vu ressusciter, mais là, ça, c'était la bonne nouvelle de la résurrection. Puis là, ils sont partis, puis ils étaient prêts à mourir pour continuer à annoncer ce message-là jusqu'au bout. Mais l'Église, Dieu, Jésus a dit, « Je bâtirai mon Église », puis cette Église-là, il dit, « Les portes du séjour des morts n'auront pas le dessus sur eux autres. » Pour cela, c'est que vous soyez équipés de connaissances de la Bible pour savoir qu'est-ce qu'il faut tasser, qu'est-ce qu'il faut résister, puis qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, vous marchez solidement dans la foi jusqu'à la fin. L'Église, c'est un autre aspect qu'on regarde, c'est une école de formation de disciples. Ça, c'est un autre aspect de l'Église. Elle est définie comme une école. Le maître, lui, le professeur, on a un professeur, on a tous le même professeur, c'est Jésus directement, Yeshua. C'est lui le professeur. C'est pour ça qu'il se faisait appeler maître. Maître, c'est un maître d'école ou une maîtresse d'école. C'est un professeur d'école. C'est ça qui est le mot qu'il y a là. Dans Jean 1,49, j'en ai déjà parlé un petit peu, Nathanaël lui répondit, il lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » En disant ça, Rabbi, il est en train de reconnaître que Yeshua, là, Jésus, était un rabbi. Un rabbi, là, c'est un professeur d'école. C'est un maître d'école. C'était le terme qui était utilisé pour s'adresser à leur enseignant. Fait que quand tu es un disciple du Seigneur, c'est que le Seigneur, tu le reconnais comme ton prof. Puis notre prof, il veut nous enseigner. Il veut qu'on comprenne ce qu'il a dit. L'Église est instituée pour propager les enseignements de notre professeur. C'est ça, c'est à ça que ça sert l'Église aussi. Oui, on a un bon temps de louange, on a des temps de prière, mais on a un temps aussi pour propager les enseignements de notre maître. Comme Paul dit, je ne me prêche pas moi-même. Paul parlait pas de lui. Il était pas là pour parler de lui, pour expliquer ses exploits, puis raconter ses récits, puis ses voyages, puis il a pris l'avion, puis il était à telle place, puis il a fait ci. Non, il se prêchait pas lui-même, il était là pour prêcher le Christ, prêcher à Jésus, puis Jésus ressuscité. On est là pour aussi d'expliquer ce que Jésus a enseigné. C'est à ça qu'a sert l'Église. Le but de l'Église, c'est de ramener les enseignements de notre professeur. Tous les enseignements du Seigneur sont de la plus haute importance. Tout ce qui est enseigné, c'est important pour qu'on garde le cap dans la bonne direction. Il y a beaucoup de monde qui ont fait naufrage face aux enseignements, dans le sens qu'ils ont dérapé. Ils suivent plus ce qui est écrit. Ils ont commencé à inclure des traditions, puis commencé à trier ce que dans la Bible. Bon, ça, dans ce temps-là, c'est pas grave, ça sert plus. Aujourd'hui, c'est rendu d'autres choses. Puis là, ils dérapent. Ils s'en vont dans le fossé. Ils gardent pas le cap dans ce que Jésus a enseigné. Tout ce que Jésus a enseigné, il y a 2000 ans, est en cause 100% d'actualité aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il l'a dit que sa parole demeure éternellement. Pour que ça change, là, ce qu'il a décrit, il faudrait que Jésus revienne pour dire, c'est plus ça, c'est rendu d'autre chose. Puis il fera pas ça. Pourquoi? Parce qu'il a dit qu'elle demeurait éternellement. Il n'y a pas question qu'elle revienne, puis même s'il y a un ange qui nous apparaît puis qui nous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème, que Paul dit. Même si tu aurais des visions, des rêves, tu penses Dieu me dit, tu penses que Dieu te dit, puis là que ça t'amènera à d'autres choses de ce qui est écrit, tu es en train de te faire tromper. Dieu, ce qu'il a décrit dans sa parole, là, ça demeure éternellement. Puis c'est encore 100% d'actualité. Puis tellement que c'est de la plus haute importance que Jésus a dit et enseigné, dans Jean 12, 48, Jésus a dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Fait qu'il n'est pas question que ça change, c'est ces paroles-là qui vont juger le monde à la fin. Fait que si tu rejettes Jésus et sa parole, parce que tu peux dire, je prends Jésus, mais je prends pas la parole. C'est pareil. Faut que tu ailles les deux. Faut que tu demeures en Jésus puis en sa parole. Puis c'est là que tu es dans le bon chemin. Quand il parle, celui qui ne reçoit pas mes paroles, le mot strong que là, ça l'inclut tout ce qui a été dit. Parce que le mot veut dire la chose dite, ou la parole, ou les discours, ou les messages, ou les récits, peu importe ce qu'il a dit, même si ça sera une parabole, c'est quelque chose qu'il a dit, c'est du 100%. C'est du 100%, ça vient de lui, il n'a pas parlé pour rien dire. Jésus ne parlait pas pour parler. Il parlait pour expliquer, puis tout ce qui a sorti de sa bouche, c'est à 100% le solide, puis l'éternel. C'est pour ça qu'il est important en tant que chrétien que nous sommes ceux à qui la parole a été destinée. En réalité, elle est destinée pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui ont des oreilles pour l'écouter. Nous, on a des oreilles pour l'écouter. Il faut rester dans ce qui est écrit. C'est important. L'Église était composée de disciples. Puis là, le mot disciple, ça veut dire élève. Puis ce mot-là, il est 247 fois dans le Nouveau Testament pour dire que nous aussi, on est des disciples du Seigneur, bien nous aussi, on est les élèves du professeur. Les apôtres, les évangélistes, puis quelques autres qui suivaient leur maître, le professeur. Tout le monde suivait le professeur. Dans la coutume juive, ça marchait de même. Un rabbin avait ses élèves, puis il suivait le rabbin. Les élèves suivaient le rabbin partout où il allait, puis écoutaient ses enseignements, prenaient des notes s'ils savaient écrire. Les autres, ils mémorisaient ce qu'ils avaient appris. Les profs, comme Paul, il dit qu'il était élevé au pied de Gamaliel. Gamaliel était un rabbin parmi le peuple juif, un rabbin de haut niveau, de grande réputation. Puis lui, il était école du rabbin. La même affaire que Jésus lui a dû passer par là, lui tout, mais pas, il n'a pas fait d'études parce que ça y a été dit. Lui qui n'a pas étudié, en parlant du Messie, là, ils ont dit à propos de lui, lui qui n'a pas étudié, comment donc connaît-il les Écritures? Je sais pas, là, lui, c'est parce qu'il était connecté sur le grand maître, Dieu le Père. Ouais. Pour dire que nous, on est les élèves de notre professeur. Il y en a qui n'aiment pas ça à l'école quand ils étaient jeunes. Mais là, on est adulte, puis on comprend. On le sait pourquoi qu'on est ici. Tu pourrais écouter. Parce que l'Église est une école pour retransmettre les enseignements du professeur. Puis là, dans tout cela, il y a un verset qu'on va regarder dans Luc 6, 40. Là. Ça dit, l'élève, il n'est pas plus grand que son professeur. C'est écrit, le disciple n'est pas plus grand que son maître. L'élève, chacun de nous, on n'est pas plus grand que notre professeur. Ça veut dire, parce que là, on ne parle pas d'un professeur qui a des possibilités de mentir ou des possibilités de ne pas avoir été instruit assez grand, assez sur tous les sujets pour être capable de nous expliquer comme il faut. Comme ça se passe aujourd'hui dans les écoles, que l'élève va ostiner le professeur sur des affaires que le prof est en train d'enseigner. Nous, on n'est pas plus grand que notre professeur. Lui, ce qu'il sait, ce qu'il a transmis, c'est à la vérité. Nous, les élèves, tout ce qu'on a à faire, c'est d'y croire à 100% ce qui a été dit. Amen. Jésus dit, le disciple n'est pas plus grand que le professeur, mais tout disciple, tout élève qui est accompli va être comme son professeur. C'est quoi ça d'être accompli? Le mot être accompli, c'est redresser, ajuster ou compléter. Ça veut dire tout élève qui est rendu complet dans sa formation parce qu'il a compris les enseignements du maître, mais il va être comme son professeur. Parce qu'on a à devenir comme notre maître. On a à devenir à son image, à lui. Fait que ce qu'on apprend, c'est pour devenir comme lui. Il y en a-tu qui veulent devenir comme Jésus ici? Tout élève accompli, ça veut dire qu'il aura eu sa formation, puis qu'il aura grandi, puis qu'il aura été rendu à stature, un stature d'un disciple solide, va être comme le maître. Il va avoir la connaissance des choses de Dieu, puis quand il va ouvrir la bouche, ça va être pour parler des choses de Dieu, de ce que Dieu lui a montré. Dans l'Église, le contenu de la formation qui doit être présentée, ça revient un peu à ce que je disais tantôt, les enseignants doivent veiller à ce que tout ce qu'ils donnent comme enseignement soit intégral selon la parole de Dieu. C'est que les enseignants doivent enseigner ce qui est écrit dans la Bible tel que c'est enseigné. Puis quand on dit intégral, ça veut dire que ça doit comprendre tout ce qui est enseigné. Dans Actes 20, 26, Paul il disait ça. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien en cacher. Ça veut dire que l'apôtre Paul, si tu lis ses écrits, il t'a rapporté 100% de tout ce qu'il avait appris du Seigneur. Il n'a rien caché. Ça veut dire que tout ce qui a été dit ou qui a été mis par écrit dans la Bible, c'est des enseignements qui viennent de Dieu parce que Dieu voulait qu'on les entende. Tout. Puis, si c'est pas écrit dans la Bible, c'est parce qu'il voulait pas qu'on le sache. Est-ce que tout le monde connaît tout sur toutes les révélations? Non. Mais ce qu'on a appris, ce qui était écrit textuellement, on prend tout ce qui est là, puis on n'en enlève pas, puis on n'en rajoute pas. Un enseignant, son devoir, c'est d'enseigner ce qu'il y a là, sans en ajouter, sans en enlever. Si on lit l'Apocalypse, c'est bien écrit qu'est-ce qui arrive si on se met à en ajouter et à en enlever. À la fin, ça le dit dans le dernier chapitre. Les enseignants appelés par le Seigneur doivent s'assurer de prêcher un contenu qui est conforme à la sainte doctrine. Quand on parle de ça, ça veut dire la sainte doctrine, ce qui est la doctrine, c'est l'enseignement. Ça veut dire tout ce qui est l'enseignement saint, conforme à la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a écrit là, sans en ajouter, sans en enlever. Dans Tite 1.9, ça nous dit, faut être attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Puis là, je dois faire encore une autre parenthèse. Quand on dit que je dois être attaché, moi, aujourd'hui, à la parole telle qu'elle m'a été enseignée, pas telle qu'elle m'a été enseignée par des pasteurs ou par des écoles bibliques, c'est telle qui est enseignée dans la Bible. Parce que la Bible, c'est la vérité. Mais souvent, puis c'est votre devoir même d'examiner les Écritures pour savoir si moi, je vous dis les vraies affaires. Puis c'est pas moi, faut vous suiviez le Seigneur, selon ses écrits. Puis vous avez vérifié ce qui est dit, c'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, je généralise pas, mais il y a des pasteurs qui ont reçu des enseignements de pasteurs, ils prennent des doctrines populaires, puis c'est pas appuyé biblique. Ils ont omis des choses pour pas faire peur aux chrétiens. Ils prêchent pas tout. Puis là, je veux pas embarquer de pointer personne puis donner des sujets non plus, mais c'est à vous de vérifier ce que vous entendez si c'est exact. Exact, comme les disciples de Béry qui examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. C'est pour ça que dans Tite 1.9, il faut être attaché à la vraie parole telle qu'elle est enseignée afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine puis de refuter, ça veut dire de ramener dans la vérité les contradicteurs. Parce que c'est sûr qu'il y en a du monde qui ne pense pas selon la parole. Il y en avait dans ce temps-là, puis il y en a encore aujourd'hui, puis c'est même annoncé qu'il va y avoir une évolution au niveau des antéchrists, puis des faux prophètes, puis des faux docteurs, puis les faux, c'est pas parce qu'ils ont jamais été vrais, c'est qu'ils se sont mis à parler de fausses affaires. Des choses sont pas vraies. C'est l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Il abandonne la sainte doctrine, puis il se met à se créer des traditions humaines, des religions. C'est bien plus cool, tu sais, de faire telle et telle chose, oublier certains versets. L'Église est le principal lieu pour recevoir des enseignements, des directions, puis des corrections. Parce que le Seigneur, comme les prophéties qu'il y a eues un matin, ça parlait de comportement, comment ce qui devrait être corrigé, puis d'abandonner certaines pratiques pour s'attacher, tu sais, au Seigneur encore davantage. Mais tout ça, ça parle de correction. Dieu veut aussi nous corriger. Dans l'Église, le Seigneur parle, puis ça l'amène des corrections. Ce qu'on voit, là, c'est que Dieu sert de la Bible, sert de versets, comme c'est écrit dans 2 Timothée 3.16. Ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu. C'est Dieu qui est l'auteur, qui a inspiré les écrits. Puis sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, puis pour instruire. C'est dans l'Église que ça se passe principalement. Oui, tu peux être corrigé puis instruit quand tu lis la Bible chez vous. Mais ça va arriver plus précisément quand tu es à l'Église, parce que là, tu entends des explications, des fois, de A à Z, puis ça l'aide à faire le point pour comprendre plus profondément. Dans les enseignements de la Bible qu'on retrouve à l'Église, on retrouve souvent des mots comme « aller »,« donner », »,« faire », »,« prier », »,« prêcher », »,« enseigner », »,« guérissez », »,« porter », »,« aimer », »,« fuyez », »,« touchez pas », combattez, résister, rejeter, t'as toutes sortes de comme des ordres ou des directions données pour qu'on nous guider dans tout cela. Dans les enseignements, on reçoit toutes ces idées-là là, qui nous aident. C'est écrit dans la Bible, tous ces versets-là. Fait que c'est Dieu qui a inspiré la Bible, puis est utile à cause de cela pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, pour qu'on rentre dans le combat, pour qu'on soit dans l'action, en train de faire ce que Dieu s'attend, marcher selon sa volonté. On a reçu des enseignements provenant d'une seule Bible. Il n'y a pas 50 Bibles. Oui, il y a plusieurs traductions en français, ou des traductions dans d'autres langues, en anglais. Il y en a en toutes les langues quasiment de toute la planète présentement. Il n'en manque pas gros de langues qui n'ont pas été touchées avec, ou qui ont eu des versets de Bible traduits dans leur langue. Il n'y en a pas gros qui n'ont pas eu. Mais la majorité de toutes les langues principales sont toutes atteintes. Puis, ça vient tout d'une seule Bible. C'est le même enseignement. Si quelqu'un veut s'approcher de Dieu, que tu prennes n'importe quelle Bible, tu vas pouvoir t'approcher de Dieu et comprendre les choses de Dieu. Même la Bible catholique, si tu lis la Bible catholique, tu peux arriver à comprendre le plan de Dieu en lisant la Bible catholique. Il y a certaines Bibles là, qui ont modifié volontairement des sens dans des versets, mais si tu lis d'autres versets dans ce Bible-là, tu vas finir par comprendre le plan de Dieu aussi. Mais le problème, c'est qu'il faut faire juste attention de ne pas avoir d'idées préconçues, parce que tu peux lire la Bible, mettons, avec des lunettes roses, puis tu vois tout en rose. Si tu lis la Bible avec des lunettes jaunes, tu vas voir tout en jaune. Enlevons les lunettes des idées préconçues, là, puis regardons la Bible telle qu'elle a été donnée, puis demandons au Saint-Esprit de nous éclairer, puis il va nous montrer les vraies affaires qu'on a besoin de savoir. Vu qu'il n'y a qu'une seule Bible, c'est dans le but de former un seul corps. C'est pas normal qu'il y ait... Oui, c'est annoncé qu'il y aura des sectes, mais c'est pas normal qu'il y ait autant de divisions parmi les chrétiens, puisqu'on n'a qu'une seule Bible. Il y a des groupements, là, puis tout le monde a de la misère à se parler, pourtant, Jésus a juste une église à travers la planète. Puis des groupements, des fois, ont de la misère à se parler, parce que l'autre, il prêche des affaires qu'on n'aime pas, puis on ne veut pas y parler, on ne veut pas les aimer, on ne veut même pas y parler. Tu sais, on ne veut même pas avoir de contact avec les personnes. Oui, c'est vrai, tu peux dire, lui, il prêche trop d'affaires qui est pas biblique, fait que là, ça t'intéresse pas de l'écouter prêcher, mais ça ne veut pas dire faut que tu rejettes le chrétien. Dieu veut qu'on s'aime, puis il n'y a rien qu'une église. S'il a accepté le Seigneur comme son sauveur, il est pardonné, il est sauvé, puis on va le revoir dans la présence de Dieu. Il y a des petits points de doctrine, des fois, c'est pas grave. Mais il y a des gros morceaux, par exemple, dans les doctrines, tu peux pas changer ça. Si tu changes ça, tu t'es égaré, tu es perdu. Mais le but de l'Église, c'est Éphésiens 4:4, ça dit, il y a un seul corps, il y a un seul esprit. On était appelé à une seule espérance, l'espérance d'avoir la vie éternelle par le Seigneur Yeshua. Il y a un seul Seigneur, il y a une seule foi, il y a un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Quand t'es né de nouveau, t'es sauvé. Puis là, Dieu est en train de bâtir son Église. On a reçu des enseignements provenant d'une seule Bible, faut pas oublier. Puis c'est par cette Bible-là qu'on apprend les vraies affaires. La parole de Dieu, elle, en fin de compte, est une nourriture. Quand on est à l'église, on s'en rend pas compte, mais Dieu est en train de nous donner à manger quand on écoute des enseignements comme cela avec les versets. Là. Il est en train de nous donner à manger pour qu'on se fortifie dans le Seigneur. Parce que quand tu acceptes le Seigneur, tu pars à zéro. Là. Tu sais pas grand-chose. Tu apprends. Tu es là pour apprendre. Puis quand... On est des faibles brebis quand on accepte le Seigneur. On n'a pas appris grand-chose. Fait qu'on s'accroche, puis on écoute, puis on mange. Mais même après 45 ans, moi j'ai 67, puis je mange encore à 3 repas par jour. C'est pas à cause que je suis rendu à un certain âge que j'ai arrêté de manger. Mais spirituellement, c'est la même affaire. Même si on se pense adulte spirituellement, Il faut continuer à manger de la nourriture solide, la parole de Dieu. Sinon, tu vas faiblir, tu vas perdre des forces, puis tu vas même te mettre à douter, puis tu vas commencer à t'égarer si tu ne te reprends pas. L'Église, ça sert à ça, un bon repas. C'est pour ça que tu peux manger plus qu'un repas dans la semaine, puis on offre des réunions à différents moments. C'est dans le but de manger plus pour se fortifier plus. Une des caractéristiques de tout disciple en santé spirituellement parlant, c'est d'avoir soif de la parole de Dieu, d'avoir faim de la parole. C'est une caractéristique qu'on retrouve dans tous les chrétiens qui sont en santé. Comme dans la chair, là, quand tu es en forme, tu te fais manger puis tu manges. Tu manges ce qu'il y a dans ton assiette. Quand tu es rendu malade, là, ça te tente même plus de manger. Même si quelqu'un d'autre te donne une assiette, ça te tente plus de manger. Ça t'a pas le goût de manger. Mais c'est pas parce que tu n'aimes pas ce qui a été fait ou que ce qui a été fait n'était pas bon. C'est parce que tu n'as même plus l'appétit. Puis ça, c'est de ne pas être en santé, spirituellement parlant, quand tu n'as pas l'appétit de vouloir manger. L'Église, là, est là pour nourrir les gens. Puis, si vous avez plus faim de la parole, c'est pas normal, vous êtes plus en santé spirituelle. Faut se reprendre en main. Faut demander au Seigneur de venir faire de quoi, puis que vous vous motiviez à demander au Seigneur de pouvoir que votre appétit revienne, puis que vous puissiez avoir le goût de manger la parole. On voit ça dans Actes 2, 41. Quand tu acceptes le Seigneur, normalement, là, comme un bébé, là, il a faim, puis il a soif du lait, puis il braille parce qu'il a soif. Hein? Mais ceux qui acceptèrent sa parole, ils furent baptisés, puis en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta de 3000 âmes. Puis là, quand que ces disciples-là ils ont accepté le Seigneur, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Pourquoi que les disciples persévèrent dans l'enseignement des apôtres quand ils viennent d'accepter le Seigneur? Parce qu'ils ont faim. Ils ont faim et soif, puis ça, c'est le Saint-Esprit qui fait ça, puis c'est normal, c'est normal. Si c'est pas là la fin de la parole, c'est pas normal. On n'est pas sûr qu'elle est rendue vivante, spirituellement parlant, cette personne-là. Si vous avez faim et soif, c'est normal. Puis si vous l'avez pas faim et soif, c'est pas normal. Ceux qui ont faim vont persévérer dans l'enseignement. Ils veulent en entendre des choses, puis ils veulent grandir. C'est normal. Puis ça, on devra tous être comme ça. Puis il y a plusieurs points dans lesquels qu'on peut grandir, qui nous fortifient. Il y a l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, les fractions du pain, puis les prières. C'est toutes des affaires qu'on fait ensemble, puis que ça nous fait grandir, ça nous fortifie. Parce que les enseignements, là, sont une nourriture donnée pour la croissance de l'Église. Si Dieu a mis ça là, c'était de l'enseignement qui était utile pour nous corriger, pour nous convaincre, nous instruire, pour nous changer. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de ceux qui enseignent la parole, ils doivent nourrir le troupeau. D'amener des versets, d'amener de la parole, parce que c'est une des fonctions de ceux qui ont été placés là par le Seigneur avec le don d'être capable d'enseigner la parole, c'est dans le but de donner de la parole pour nourrir le troupeau de Dieu. Dans 1 Pierre 5,2, c'est ça que ça nous dit. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Ce verset-là, ça s'adresse à ceux qui sont là comme anciens ou comme pasteurs ou comme enseignants. Le job principal, c'est de paître le troupeau. Paissez, là, c'est paître. Paître, c'est nourrir. Tu nourris le troupeau en amenant des versets de la Bible. Puis ça veut pas, sans que vous en rendiez compte, ça fait un effet dans votre cœur quand vous avez les yeux et les oreilles ouvertes. Ça peut arriver que ça rentre par une oreille puis ça sort par l'autre. Qu'on est là juste pour faire acte de présence. Mais si il y a une personne est rendue à ce point-là, elle a besoin d'aide. Parce que c'est pas normal. on sera supposé de toujours aimer entendre ce qui est dit dans la Bible, puis de ce que Jésus a dit. La parole de Dieu, c'est une semence qui est donnée par Dieu, puis elle fait un effet même si on en est inconscient. On se rend même pas compte, puis Dieu y agit dans nos cœurs par les versets qu'on a laissés rentrer, puis qu'on réfléchit là-dessus. Dieu fait un œuvre dans nos cœurs avec ça. Même si on s'en rend pas compte. Il y a bien des points dans ma vie qui ont changé par rapport... Mais il y a des affaires qui ont changé parce que j'ai demandé au Seigneur de les changer, puis il y a d'autres affaires, j'en ai même pas parlé, puis ça a changé pareil. Puis c'est la même affaire pour chacun de vous. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur, déjà des choses commencent à changer dans vos vies, puis ça va être de même jusqu'à temps qu'ils viennent nous chercher. Puis que vous en rendiez compte, que vous en rendiez pas compte, ça change. Puis vous allez devenir de plus en plus comme votre maître. Dans Marc, au chapitre 4, verset 26, il y a une petite parabole qui a été dite là, puis c'est pour expliquer ce que je viens de vous dire. Il dit encore, « Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe, croît, sans qu'il sache comment. » Quand la parole est annoncée, puis la personne à l'écouter, jour et nuit, va se produire des choses dans sa vie, puis elle s'en rend même pas compte à cause de quoi, puis il y a des choses qui vont changer. Il y a même des gens qui sont même pas chrétiens qui vont changer parce que quand ils vont vous voir, ils vont vous écouter, il y a des choses même à eux. Des fois, ils voudront même pas se laisser aller dans à sacré ou à ils vont se retenir parce qu'il y a quatre choses qui s'est produit, qui ont compris, que quand ils sont devant vous autres, ils vont vous respecter. Puis c'est parce qu'ils ont entendu de quoi, puis ils ont vu de quoi en vous, puis ça a un effet même sur les autres autour. C'est un peu l'exemple qui est donné. Il dit, si quelqu'un, une femme, elle a un mari non-croyant, ça dit que les enfants sont sanctifiés par la foi de la madame, là, qui parle de Dieu dans la maison, il y a de quoi qui se produit dans les enfants. Les enfants sont... Ils vont vivre dans quelque chose que, même si l'autre croit pas, juste le fait d'être dans une famille chrétienne, il y a des choses qui vont se produire, qui vont être bénies dans ça, puis qui vont, ils vont avoir un caractère de plus en plus conforme à la parole par rapport à la présence de celui qui croit. Fait que, ce qu'on a laissé rentrer, nous, comme parole, ça continue d'agir en nous qu'on s'en rende compte. Compte ou pas, puis quand on sort et qu'on parle aux autres, veut pas, il va avoir une influence qui va se faire, puis dans la vie des autres, même si tu comprends pas comment ça marche, Dieu il a fait le plan que ça soit comme cela. La plupart de tous ceux qui ont accepté Jésus, c'est suite à ce qu'ils ont entendu la parole venant de la bouche de quelqu'un qu'ils ont rencontré. Ça se transmet. T'en parles, puis là, l'autre, il y a quelque chose. Ah oui, ah, je ne savais pas ça. Ou là, ça va allumer des affaires en eux, puis Dieu, il fait de là, puis il les amène à un moment donné à lire la Bible, puis à donner le jour au Seigneur. Tout le monde, sont rares ceux qui ont accepté le Seigneur, puis qui n'ont jamais entendu parler quelqu'un pour lui dire. Car à accepter tout seul, sans personne d'autre, c'est rare. Majoritairement, c'est toujours suite à quelqu'un qui en a parlé. La parole, là, comme on a dit tantôt, la parole est vivante. Elle vit. C'est une puissance de Dieu qui peut sauver. C'est pour ça que les chrétiens sont appelés à ouvrir leur bouche pour le dire aux autres, parce que ça va rentrer, puis il va se produire quelque chose que tu t'en rendes compte, que tu t'en rendes pas compte, que ça marche. Ça marche tellement, là, la preuve, c'est que quand ils ont commencé, il y avait juste Jésus que les 12, puis aujourd'hui, on est rendu 1 milliard de chrétiens sur la terre. Ça a-tu marché? Puis ça n'a pas fini. Tant que Jésus n'est pas revenu, il va en avoir d'autres qui vont se convertir. Puis même, il y en a là-dedans qui ont dit toute leur vie, parce que je l'ai entendu, ce mois, de ma grand-mère, Tu viendras pas me changer de religion. » T'as boqué au bout, t'as voulu pas entendre parler. Ben, pas qu'elle voulait pas entendre parler, mais elle voulait pas admettre ce que je disais. Puis 2 semaines avant sa mort, « Daniel, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? » Ma grand-mère, elle a accepté le Seigneur, puis elle est morte 2 semaines après du cancer. Mais c'est pour ça que je vous dis, la parole a fait effet. Même si les gens résistent sur le coup, on peut croire qu'il va se produire quelque chose à quelque part, à un moment donné. Puis sans qu'on comprenne comment ça marche, il faut juste le dire, qu'est-ce qui est écrit. Puis Dieu le fait à tous les semaines. Puis tous les enseignements que vous recevez, là, ça a un impact dans vos vies, puis il y a quelque chose que le Saint-Esprit va faire, va continuer à faire, que vous en rendiez compte ou pas. C'est pour ça qu'il faut venir pour être exposé à la parole, pour que vous puissiez l'entendre, puis vous allez grandir avec ça. Moi aussi, ça me fait grandir. Hein? Je les réécoute toutes mes prêches, puis je suis d'accord avec ce que je dis. C'est rare que je m'ostine avec ce que j'ai dit. La puissance de la parole qui agit en nous nous perfectionne puis nous fait grandir dans le Seigneur. Ça le dit que les ministères ont été donnés pour enseigner l'Église, puis dans Éphésiens 4:12, dans la suite de ça, ça dit c'est pour le perfectionnement des saints qui sont là. Veux, veux pas, on passe tout à une période de notre vie à être assis dans l'Église, à écouter les enseignements, puis ça fait une heure pour nous changer, puis à un moment donné, c'est rendu à notre tour de pouvoir le transmettre ça aux autres, ce qu'on a appris. C'est de même qu'on est perfectionné. Vous allez tout atteindre les buts que Dieu a fixés pour chacun de vous. Il vous a donné des qualités, des dons, des capacités, puis il vous appelle à des tâches, puis le but, c'est de vous amener où ce que lui veut vous amener. Il faut vraiment forcer pour ne pas l'atteindre. Il faut forcer à résister contre Dieu pour ne pas atteindre le but que Dieu veut nous emmener. Si vous voulez avancer, Dieu va le faire. C'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est, vous avez tous des services à faire pour Dieu dans chacun des dons que vous avez reçus. Puis si votre perfectionnement vous recevez aujourd'hui, c'est pour servir le Seigneur. On est encouragé à rester groupé pour être exposé à la parole donnée par le Seigneur. Elle a le pouvoir de nous sauver. On va lire le verset en français courant. C'est pourquoi rejeter tout ce qui salit, tout ce qui est impur, c'est ce qui vous salit spirituellement. Et tous les excès dus à la méchanceté, puis accueillez avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Hey, accueillez avec humilité. Tu sais, on écoute, là, vous êtes en train d'écouter, si dans votre cœur vous dites, « Moi, là, je suis tanné de l'entendre prêcher cette affaire-là, moi, là. » Puis là, vous craquez à résister à ce qui est dit. C'est sûr qu'elle n'aura pas l'effet. Vous mettez un mur, là. Vous mettez un mur. Si vous accueillez avec humilité, « Oui, Seigneur, tu es en train de nous parler. Tu es en train de me dire quoi faire ou quoi pas faire ou quoi penser. » Avec humilité, tu vas recevoir la parole de Dieu qui est plantée dans votre cœur. Comme vous disais tantôt, c'est de la semence, la Bible. Les versets, c'est de la semence. C'est planté. Quand vous ouvrez votre cœur pour le recevoir, ça rentre dans votre cœur. Puis là, il se passe quelque chose. Il va se passer, même si vous en rendez compte ou pas compte, il va se passer quelque chose parce que vous l'avez reçu. Cette parole-là, cette semence-là, elle a le pouvoir de vous sauver. Les premiers croyants se réunissaient chaque jour pour recevoir les enseignements. On voit ça dans Actes 5, 42. Et chaque jour, dans le temple ou dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Que ce soit à l'église ou dans le temple ou dans une synagogue ou dans une maison, Il lâchait pas à chaque jour d'annoncer le message. Il prêchait du monde. Puis ça, si un gars il est capable chaque jour d'aller chercher une portion des Écritures, puis de la lire, ou de l'écouter, aujourd'hui tu peux l'écouter. Si t'aimes pas lire, il y a la Bible en lecture audio qui est déjà toute faite, que tu peux mettre dans ton ordinateur ou dans ton téléphone, puis écouter ça toute la journée si tu veux. Tu peux le mettre dans ton système de son, puis d'écouter la lecture de la Bible. Tu vas apprendre, tu vas grandir, tu vas te nourrir, tu vas te fortifier dans le Seigneur. Là, la Bible, elle nous donne quelques encouragements à continuer à nous réunir à l'Église. Parce que, comme je vous disais tantôt, si tu n'as plus soif, tu te mets encore moins, un peu plus loin, même tu n'as même plus le goût d'y aller à l'Église, parce que tu penses que l'Église, c'est pas bon, ou ça ne te sert plus, ou tu penses que tu n'as plus besoin. Là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe de négatif dans ta vie. Là. L'ennemi t'a mis de quoi dans tes pensées? La Bible nous dit, une exhortation qu'on retrouve dans Hébreux au chapitre 10, le verset 25, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous, encourageons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Le jour que Jésus va revenir, il est encore bien plus proche que le 2000 ans. Puis dans ce temps-là, il dit ça s'approchait le jour, là. Puis il pensait que c'était pour arriver subitement, rapidement, dans ce temps-là. Puis il dit, n'abandonnez pas votre assemblée, comme ça arrive à du monde qui abandonne. Restez ferme, vous avez besoin de ça. Vous en rendez pas compte, mais Dieu est en train d'agir quand vous êtes là. Puis si vous êtes pas là, vous vous privez de manger. C'est sûr que vous allez finir par faiblir spirituellement. Puis encore plus qu'on le sait que Jésus est à la veille de revenir. Parce que si on manque notre shot, puis on n'est pas debout quand il va revenir, on ressuscite pour subir la colère de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ceux qui ne veulent pas participer à ce qui est instauré, ils cherchent à marcher plutôt selon leur volonté. Tu sais, tantôt au début de la réunion, on disait, pour comprendre la volonté de Dieu, puis là, d'être renouvelé pour comprendre la volonté de Dieu. Mais quand tu veux plus la volonté de Dieu, c'est que tu veux faire ta volonté. Puis il faut être capable d'être prêt à payer quelque chose à quelque part, faire un effort de vous chercher la volonté de Dieu. C'est en allant à l'Église. Si on veut plus y aller, c'est parce qu'on veut se remettre à pratiquer ce qui nous intéresse, les choses, nos choses qui selon notre volonté. Dans Proverbe 18:1, ça dit, « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît. » Puis il s'irrite contre tout ce qui est sage. Est-ce qu'on est des gens qui cherchent ce qui nous plaît? Ou on cherche à plaire à Dieu? Si vraiment on est des gens qui cherchent à plaire à Dieu, notre place est à l'Église. Pour venir recevoir ce que le Seigneur a donné à chaque semaine. Il faut faire un effort de renoncer à soi-même pour prendre notre croix. Renoncer à des choses, quiconque conserve sa vie la perdra. Mais celui qui perd sa vie pour le royaume, pour le Seigneur, va la retrouver pour la vie éternelle. Je finis avec un dernier verset. Lorsque quelqu'un commence à s'approcher de l'Église, il s'approche de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Dans Hébreux 12, 22, ça dit, « Mais vous, vous vous êtes approchés. » On s'est approchés de Dieu, là. On s'est approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. On s'est approchés de ce qui est l'endroit où ce que Dieu vit présentement. Au milieu du cœur des anges, c'est que les anges chantent la gloire de Dieu. On s'est approchés aussi de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. Jésus le dit à ses disciples, « Réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans les cieux. » Puis les premiers-nés, savez-vous c'est quoi? C'est les héritiers. C'est à les héritiers. Dans une famille, là, il pouvait avoir 12, 14, 22 enfants, mais c'était le premier-né qui héritait les choses de son père. Puis quand tu viens à l'église, tu t'assembles avec les premiers-nés inscrits dans les cieux. Wow! C'est extraordinaire, ce verset-là. On est l'assemblée des premiers-nés, des héritiers inscrits dans les cieux. Réjouissez-vous que si j'avais accepté Jésus comme votre sauveur personnel, vous êtes un des héritiers qui est inscrit dans le ciel. Et quand tu vas à l'église, c'est pour aller rencontrer une gang de premiers-nés inscrits dans les cieux, qu'on est content de voir à chaque semaine. Puis ça nous fait de quoi si on les voit pas cette semaine-là? Amen. On s'est approché du juge qui est Dieu de tous, le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Vous savez qu'on est ces justes-là parvenus à la perfection. Pas parce qu'on est meilleur, pas du tout. C'est à cause que la perfection de Jésus est sur nous. On a tout à gagner de se rassembler avec les saints, avec les justes, les héritiers, qu'un jour on va se retrouver pour l'éternité ensemble. S'il y en a qui se disent, moi j'ai pas encore fait le pas d'accepter Jésus, bien là je suis prête. Je veux faire des pas, puis je veux que ma vie appartienne au Seigneur. Je veux suivre le Seigneur, je veux marcher avec le Seigneur, je veux marcher jusqu'à la fin pour le Seigneur, parce que je reconnais que son salut, c'est lui qui le donne, puis ses promesses sont vraies. On va faire une prière ensemble pour donner votre vie au Seigneur. Profitez-en. C'est pas moi qui vous sauve, c'est devant Dieu que vous faites cette prière-là. Dites après moi, Père, je reconnais que je suis un homme pécheur. Je reconnais que je suis perdu. Mais je sais que Jésus est mort sur la croix, a versé son sang, puis qui est ressuscité pour pardonner mes péchés. J'accepte Jésus comme mon sauveur, comme mon Seigneur. Prends ma vie, je la donne. Je veux te suivre, te servir tous les jours de ma vie. Et donne-moi ton Saint-Esprit pour qu'il me conduise dans la voie de la vie éternelle. Amen. Amen. Si j'avais fait cette prière, sachez que Dieu l'a entendu, puis Dieu a pardonné vos péchés. Maintenant, marchez avec le Seigneur. Allez dans une église. Allez, nourrissez-vous de la parole de Dieu. Puis vous allez, un jour, on va se revoir ensemble dans la vie éternelle. Amen.